Annie Regon présente du patrimoine et des hommes dans Carrefour des Arts.
Bien bonjour, bienvenue dans ce nouveau Carrefour des Arts. Au titre de l'émission Les Monuments et les Hommes, je reçois aujourd'hui à nouveau Monsieur Jean-Michel Legnaud, que nous avions déjà entendu nous parler de l'abbaye de Saint-Denis. Monsieur Legnaud, vous êtes directeur d'études à l'École pratique des hautes études et professeur à l'École des Chartes, spécialiste d'histoire du patrimoine et d'histoire de l'architecture des 19e et 20e siècles. C'est bien ça.
Bonjour.
Je rappelle que vous êtes chartiste, que vous avez été conservateur des monuments historiques aussi, et que vous êtes vraiment un des grands spécialistes de tous les problèmes de restauration monumentale et également des problèmes qui peuvent surgir autour des restaurations.
C'est vous qui le dites.
Mais c'est vrai. Je pense que tout le monde sera d'accord avec moi. Donc nous avions déjà parlé de l'abbaye de Saint-Denis. Avec Monsieur Erland Brandenburg, nous avions évoqué l'époque médiévale qui est très riche et très importante à Saint-Denis. Et puis vous-même étiez venu nous parler du sort réservé à cet ensemble de bâtiments pendant l'époque révolutionnaire et également pendant l'Empire. Et nous avions appris avec étonnement, enfin je pense pour certains d'entre nous, que Napoléon avait eu l'intention de se faire inhumer avec les rois de France dans la crypte de Saint-Denis. Et vous nous aviez expliqué un certain nombre d'éléments tout à fait nouveaux concernant toutes les transformations qui avaient été projetées à ce moment-là. Donc nous nous retrouvons maintenant en 1814, à la chute de l'Empire. Donc c'est l'époque de la Restauration et on peut penser que la monarchie retrouvée va porter un regard tout à fait intéressé sur ce lieu où ses ancêtres étaient inhumés depuis déjà plusieurs siècles. Alors qu'arrive-t-il à ce moment-là ?
Alors 1814, c'est comme un peu partout ailleurs, c'est l'année des croisements. Louis XVIII s'empresse à Saint-Denis de remplacer les abeilles par des lits. Alexandre, grand admirateur de Napoléon, vient faire un tour pour voir l'endroit où devait être enterré le héros. Et puis pendant les 100 jours, Napoléon retourne à Saint-Denis, visite les lieux et constate avec tristesse que pendant son bref départ, on a déjà eu l'intention d'occuper la place funéraire qu'il s'était réservée. Donc il faut imaginer c'était ce petit balai à la fois solennel et un peu cocasse quand même. À cette date-là, dans quel état se trouve l'édifice ? Il a un toit, une charpente en bois qui est plus petite que la charpente originelle. Il doit avoir un certain nombre de vitraux, probablement, peut-être tous même. Le sol a été refait, il est exhaussé par rapport au niveau d'origine.
Et dans quel but on exhausse le sol ?
On exhausse le sol dans l'idée que de faciliter les déplacements depuis le parvis jusqu'au chœur pour accroître la solennité de la procession ou du déplacement des personnes.
Pourtant, c'est déjà très solennel.
Oui, mais il s'agissait de réduire le dénivelé entre le haut du narthex, avant nef, et le niveau de la nef, de façon à éviter de descendre tous ces escaliers. D'ailleurs, ça pose un problème aujourd'hui, parce que la tribune actuelle, a été faite sous l'Empire, à l'instigation de Vivant de Non, et la tribune, elle, est à son niveau Empire. Et on a toute une série de projets, à mon avis, parfaitement naïfs et aberrants aujourd'hui, qui visent à rétablir dans l'entrée et sous la tribune le niveau d'origine aussi, que l'on connaît, mais ce serait au prix de la destruction d'une partie des travaux de l'Empire, et ça poserait aussi le problème de la relation de niveau entre le sol de l'avant-nef et le sol du parvis. Donc une affaire assez compliquée, et à mon avis assez inutile à l'époque où les monuments historiques ont besoin de travaux et pas d'aménagement de ci, de là. Donc ça, c'est un résultat de l'Empire. Donc à l'Empire, en 1814, on a cette tribune, on a le sol de la nef, on a la toiture, on a les vitraux, on a fait une sacristie, la sacristie de Sellerier, avec le programme de peinture qui a été réalisé par Vivant de Non. Et puis on a commencé, mais pas fini probablement, la chapelle dite Cœur d'Hiver, destinée aux chanoines évêques et aux chanoines prêtres du chapitre impérial de Saint-Denis.
Qu'avait créé Napoléon.
Bon, on a tout ceci, mais en fait, ça ne fonctionne pas parce que les chanoines considèrent que Saint-Denis est un lieu assez triste, que la basilique est encore dans les courants d'air et dans les chantiers. Donc, aucun culte voué à la mémoire des souverains n'y est célébré. Donc, ça ne marche pas. De facto, ça ne marche pas. Ça va marcher à partir, marche au point de vue liturgique, à partir de la Restauration. Car l'événement majeur, c'est le retour des cendres de Louis XVI et de Marie-Antoinette, qui va être commandité par Louis XVIII depuis l'ancien cimetière de la Madeleine, avec parallèlement la décision de construire la chapelle expiatoire.
Oui, qui existe toujours.
À la demande de Louis XVIII et par Fontaine et Percier. Et puis, en 1817, seconde campagne de translation de cendres, enfin il y en a eu plusieurs autres, on fouille la fosse commune dans laquelle avaient été entassés pendant la terreur les ossements des rois, des reines, des princes et des princesses, et on rapatrie le tout, assez en vrac, dans un caveau qui se trouve désormais dans la crypte. Donc, dorénavant, la basilique retrouve sa fonction funéraire. C'est une nécropole royale, c'est un temple voué à la mort et à la commémoration de la mémoire monarchique. Et puis c'est là que l'on va enterrer aussi le père du duc de Berry, après son assassinat, et le duc de Berry, après son assassinat, et un certain nombre d'enfants mort-nés de la duchesse de Berry. Et pour finir, c'est là que l'on va enterrer aussi Louis XVIII.
Bien sûr.
Bon. Alors, dans ce contexte, des décisions sont prises pour que le chapitre fonctionne. Et ça commence à être le cas, c'est-à-dire qu'on accélère un certain nombre de travaux d'aménagement liturgique, l'aménagement du chœur d'hiver. Un certain nombre de chanoines sont astreints à résidence à Saint-Denis et le culte monarchique fonctionne, le chapitre se donne un règlement, la liturgie est fixée et l'architecte François Debré entreprend toute une série d'aménagements intérieurs, essentiellement dans l'ordre du vitrail, de la peinture murale et des autels. Lorsque la monarchie de Juillet arrive, après 1830...
Pendant la Révolution de 1830, il n'y a pas d'événement comparable à ce qui s'est passé pendant la Révolution de 1789.
Il y a eu quelques petits événements... Il y a eu de petits événements de vandalisme qui ont été signalés, quelques... contre les fleurs de lys.
Ah oui,
à nouveau.
Toujours le symbole.
Toujours les symboles, oui. Bon, qui ont été bûchés. Et d'ailleurs qui ont continué de l'être après la Révolution, à la demande du gouvernement, notamment à la demande de Thiers. Le dernier grand enterrement à Saint-Denis a lieu précisément en 1830, après la Révolution. C'est l'enterrement du duc de Bourbon,
ah oui,
l'ancien propriétaire de Chantilly,
oui,
à qui Louis-Philippe devait bien ça. Et donc le dernier des Bourbons a été enterré. Il a son caveau à Saint-Denis et à l'effroi et au courroux d'un certain nombre de monarchistes, sur le cercueil, il y avait parmi ses insignes, l'insigne de la Légion d'honneur qui ne faisait pas plaisir
à tout le monde.
À tout le monde.
On peut s'en douter.
Alors ça, c'était le dernier grand enterrement...
Royal
grand enterrement tout
princier,
court, tout
oui.
court à Saint-Denis. Il y a eu d'autres enterrements... Mais c'était le dernier grand enterrement important qu'ait connu la basilique, puisque la famille d'Orléans considérait que sa nécropole à elle, ça devait être Dreux, bien entendu, et que Notre-Dame acquérait dorénavant un statut de temple national.
Voilà. Plus fédérateur.
Voilà. C'était plus Saint-Denis. Les funérailles, les grandes cérémonies n'auraient plus lieu à Saint-Denis, mais... à Notre-Dame. Alors, c'est en ce contexte, dans ces années 1830, de grands changements politiques où Saint-Denis perd une partie de sa signification de mémoire monarchique, mais en acquiert une nouvelle de monuments historiques.
Comme dans beaucoup d'anciens monuments de la monarchie, en fait,
voilà.
À ce moment-là.
Il y a une sorte de laïcisation, de neutralisation de la signification originelle au profit d'un nouveau concept, le concept de monument historique. Dans les premières années du règne de Louis-Philippe, en effet, un certain nombre de décisions sont prises. D'abord pour relancer l'économie. Deuxièmement, relancer l'économie par l'industrie du bâtiment. Troisièmement, relancer l'industrie du bâtiment par l'achèvement des grands chantiers d'architecture, et Saint-Denis est un grand chantier qui n'en finit pas, et quatrièmement, mettre au point le système des monuments historiques. Donc plusieurs soucis se croisent pour que l'on affecte des crédits très importants à Saint-Denis. Et le chantier repart. On dépense à nouveau des sommes énormes.
Oui, parce que vous avez très bien étudié toute la comptabilité de ces chantiers.
Oui, oui, il y a eu des sommes énormes qui ont été dépensées sous l'Empire, que d'ailleurs, non sans une certaine gabegie, il y a eu des procès, ouais. des fausses factures, des choses épouvantables. La restauration, elle, a été beaucoup plus économe, parcimonieuse. C'est une époque de déflation. On essaie de faire 3 francs avec 6 sous. Et puis, la monarchie de Juillet est à nouveau une époque assez largement...
Dépensière.
Dépensière et inflationniste. Mmh. D'ailleurs, ça marche effectivement, puisque c'est une époque de prospérité. Plus vous dépensez, plus vous gagnez. Et moi, c'est ce qu'ils ont pensé. Ça a marché.
À ce moment-là, ça a marché.
C'est la monarchie de Juillet qui a considéré que pour relancer, inventer ce dogme, quand le bâtiment va, tout va.
Saint-Denis est bénéficiaire de cet élan.
En profite. Et Saint-Denis devient un énorme chantier expérimental dans l'ordre de l'architecture et dans l'ordre des métiers d'art. Dans l'ordre de l'architecture, on entreprend à la fin de la période, dans les années 1840, de refaire la couverture. Cette couverture n'est pas satisfaisante parce que c'était une couverture assez provisoire et elle n'avait pas sa forme originelle. Donc Debray décide de retrouver le profil du faîte de la toiture tel qu'il pouvait être au Moyen-Âge et sous l'Ancien Régime, mais au lieu de réemployer une technologie traditionnelle en bois, il décide, et le Conseil des bâtiments civils l'admet, que cette toiture serait faite en fonte, en fer et en cuivre. Fonte et fer pour la charpente et cuivre pour la couverture.
Donc on n'a pas peur de l'innovation.
On n'a pas peur de l'innovation. C'est pas la première fois qu'on en fait, puisque sous la Restauration, on avait déjà employé du cuivre sur du bois pour la couverture de la cathédrale de Rouen, dont hélas on a décidé la suppression...
Il n'y a pas longtemps.
Mmh, c'est qui est une aberration. Et à peu près à la même date, on couvrait en cuivre la Bourse, la Madeleine, la Chambre des députés, etc. Il se trouvait qu'on avait énormément de cuivre, parce que l'industrie du cuivre fabriquait de très grandes plaques qui étaient initialement destinées aux navires pour leur permettre de se rendre du côté des mers chaudes. Le bois dans les mers chaudes pourrissant plus facilement, donc on le recouvrait de cuivre. Et on s'est trouvé avec énormément de plaques de cuivre qu'on a réinjectées dans le domaine du bâtiment.
Mais parce qu'on n'a pas voulu, finalement, on a renoncé à des entreprises maritimes trop lointaines.
Non, mais l'industrie du cuivre s'est mise à se développer
et
à fournir du cuivre.
Ça marchait très bien.
C'était du côté de Rouen et on avait énormément de cuivre. Et puis dans le même temps, la grande métallurgie française s'est lancée à l'instigation des ultras qui possédaient d'énormes surfaces de forêt, donc du combustible. Donc on s'est mis à fabriquer aussi en grosse quantité du fer et de la fonte. Et puis on a commencé à comprendre les mérites comparés du fer et de la fonte. Et on a inventé des charpentes. Polonceau a inventé un type de charpente. On a mis en route aussi l'école des arts et métiers et puis l'école centrale. Enfin, la grande industrie du bâtiment, les nouvelles technologies ont commencé à investir
massivement
tous les domaines et des architectes spécialisés dans la restauration des monuments se sont dit « profitons-en ».
Oui, ils n'ont pas eu d'état d'âme.
Non, au contraire. Au contraire, comme Alavoine avait décidé de faire une flèche en fonte sur la cathédrale de Rouen, de même Debray dit « nous allons faire une couverture en fer fonte et cuivre à Saint-Denis ». Il y avait déjà eu un précédent. Au début des années 1830, c'est la cathédrale de Chartres qui avait brûlé, dont la couverture avait brûlé, et on avait décidé de refaire une couverture aussi en fer fonte et cuivre.
Très intéressant, et certainement assez méconnu, tous ces aspects. Nous allons marquer une petite pause, et nous allons nous retrouver dans quelques instants.
Balzac,
Maupassant,
Proust,
Guizot,
Chateaubriand.
Les grands noms de la littérature étudiés par les meilleurs spécialistes se retrouvent dans Au fil des pages.
En direct ou en médiathèque, sur Canal Académie.
Bien, alors nous retrouvons M. Legnaud qui aujourd'hui nous parle de l'abbaye de Saint-Denis au moment donc où elle est reprise en main au XIXe siècle, à l'époque de la monarchie de Juillet, avec des architectes qui sont assez hardis pour employer des techniques nouvelles et en particulier concevoir une charpente métallique et une couverture métallique. Mais sans doute la restauration ne se cantonne-t-elle pas aux parties hautes du bâtiment ?
Alors, Debré, dans le même temps, lance de grands travaux dans le domaine des métiers d'art, une grande campagne de fabrication de vitraux par la manufacture de Choisy. Il fait intervenir aussi son frère, Jean-Baptiste Debré, qui est rentré du Brésil. Il était parti au Brésil pendant la restauration, en manifestation d'opposition au régime des Bourbons. Et c'est là qu'il avait fondé d'ailleurs un peu l'ethnographie brésilienne. Donc Jean-Baptiste revient et il va dessiner des cartons de verrières pour son frère. C'est lui qui va faire toutes ces grandes verrières du bras sud du transept sur Napoléon, sur les funérailles de Louis XVIII, sur le passage de Louis-Philippe, sur le chantier, etc. De très très grandes verrières. Donc toute la basilique était entièrement close par des vitraux qui ont été réalisés à ce moment-là, qui aujourd'hui d'ailleurs sont en assez mauvais état. Hélas.
Et qui sont des vitraux, alors qui présentent une iconographie qui n'est pas tellement habituelle, parce que souvent les programmes iconographiques des vitraux reprennent plutôt une iconographie religieuse, avec les saints qui sont honorés sur le lieu, ou bien des épisodes de la vie du Christ, de la Vierge. Là,
Il y a de très nombreux programmes qui se mélangent. D'abord, une histoire de Saint-Denis, du lieu de Saint-Denis qui commence avec les druides. Qui se poursuivait avec le martyr de Saint-Denis, etc. Bon. Et puis, on a aussi des verrières qui mettent en parallèle un roi, un abbé et un pape. Donc, Debré avait dessiné des médaillons de tous ces personnages, de 300 médaillons. Là aussi, il s'agit de fabriquer une sorte de résumé de la mémoire nationale.
Oui, c'est très intéressant, ça. Mmh. Et ça mériterait peut-être d'être davantage étudié encore, ou y a-t-il eu des thèses ou des recherches qui ont été menées là-dessus ?
Il y a des études qui ont été faites là-dessus.
Oui, parce que c'est
vraiment... J'ai publié quelque chose, d'ailleurs, sur les vitraux, il n'y a pas très longtemps, dans les mélanges Christ, sur les vitraux de Saint-Denis. Mais ce sont de très, très beaux vitraux. C'est parmi les premiers grands vitraux, puisque cette technique avait été largement oubliée depuis le XVIIIe siècle. C'est parmi les premiers grands vitraux du XIXe, le retour au vitrail. Ce sont des pièces très belles et très intéressantes, et pas en bon état. Et puis, Debré entreprend aussi un certain nombre de décors de chapelles, car il avait sous les yeux des restes des époques antérieures, et il possédait aussi tout un repérage qui avait été réalisé par Percier. Donc il entreprend de restituer tout ça. Tout ceci a disparu, a été sauvagement lessivé par les monuments historiques dans les années 1950, notamment par Jules Formigé. Et c'est à ce moment-là qu'intervient une polémique. Une grave polémique, à laquelle d'ailleurs l'Institut se trouve mêlé. On va reprocher à Debré sa toiture comme étant d'une technologie trop hardie et peu sûre. On va reprocher aussi ses vitraux, on va lui reprocher ses peintures murales comme n'étant pas du tout archéologiques, et on va lui reprocher les techniques qui sont employées pour le ravalement. La campagne de presse est suscitée par un mouvement d'opinion qui s'inscrit dans le contexte romantique, des amoureux du Moyen-Âge, de tout genre. Alors c'est aussi bien le monarchiste Guillermi que le républicain Diderot, ou encore Prosper Mérimée, qui traîne dans ses poches l'architecte Viollet-le-Duc. Et tout le monde se met à dénoncer les travaux que Debré a entrepris depuis plus de pratiquement 30 ans.
Alors, il est attaqué sur tous les fronts.
Il est attaqué sur tous les fronts. Et alors, il y a une sorte de guerre institutionnelle entre l'administration des monuments historiques, où se trouvent Mérimée et ses amis, et le Conseil des bâtiments civils qui suit le chantier de près.
Et qui s'occupe notamment de son financement.
Et qui s'occupe du financement. Et ces deux administrations possèdent un même président qui s'appelle Vatou. Et Vatou est un personnage très important dont on ne sait pas très bien qui c'est. On dit que c'était un enfant naturel de Philippe Égalité. En ce cas, c'était le demi-frère de Louis-Philippe. Et alors Vatou, qui est président des deux commissions, est un peu Mr. Hyde et Jekyll, et il essaie d'arranger les choses, mais les choses ne s'arrangent pas du tout. Alors on demande donc à l'Institut de trancher l'affaire, et en particulier l'Académie des inscriptions et belles-lettres et l'Académie des beaux-arts, à laquelle appartient Debray, sont priés de faire un rapport sur la situation. Le rapport est évidemment tout à fait favorable aux travaux que Debray a accomplis, mais ça ne fait que relancer la polémique, et ça met en opposition, dans ce contexte romantique, post-Hernani, ça met en opposition la génération romantique et la génération dite des académiciens néoclassique qui est réputé ne rien y comprendre.
Oui, parce que ne connaissant pas le Moyen-Âge.
Aux nouveautés du Moyen-Âge.
Voilà.
Bon, tout ceci a été dit en des termes très caricaturaux à l'époque, mais c'est la première fois que l'Institut est pris à partie et épinglé comme académique. Ça va durer tout au long du 19e siècle, mais c'est la première fois. Alors finalement, Debray démissionne et Viollet-le-Duc prend sa place. Et nous sommes à la fin de la monarchie de Juillet. Et à ce moment-là, Viollet-le-Duc décide de tout changer. On va tout casser, on va changer la toiture, on va changer les vitraux, on va lessiver les peintures murales, etc., etc. Et on va remettre le niveau de la nef à son niveau d'origine. Bon, heureusement, les institutions et les nécessités financières résistent et Viollet-le-Duc ne pourra pas faire tout ce qu'il voudra. Alors on arrive sous le Second Empire et effectivement, pendant les premières années du Second Empire, il ne se passe pas grand-chose. Peu de crédit, le Conseil des bâtiments civils évite de que l'on dépense des sommes importantes à défaire ce que l'on a fait 20 ans plus tôt.
Oui, bien sûr.
Alors qu'on avait déjà dépensé beaucoup d'argent tout de même depuis le début du siècle. Et puis, Viollet-le-Duc, à force d'intrigue, obtient une décision de la part de Napoléon III, c'est que le tombeau de Napoléon III sera installé à Saint-Denis. Alors ceci, c'est une décision qui découle de toute une série d'autres événements. Lorsque les cendres arrivent de Sainte-Hélène, se pose effectivement la question de savoir où l'on va mettre Napoléon.
Napoléon Ier, voilà.
Alors, il y a ceux qui sont partisans de Saint-Denis et ceux qui sont contre. Et finalement, la décision est prise, mais très tardivement, que Napoléon n'ira pas à Saint-Denis, mais aux Invalides. Et c'est dans ce contexte que Napoléon III dit « Ben moi, dans ces conditions, j'irai à Saint-Denis ». Et Viollet-le-Duc est chargé d'élaborer un projet de nécropole funéraire pour Napoléon III à Saint-Denis. Et c'est dans ce contexte que Viollet-le-Duc en profite pour faire toute une série de travaux à sa manière, et notamment le rétablissement du sol de la nef à son stade d'origine. Et c'est aussi à ce moment-là qu'il entreprend de redéplacer les tombeaux pour les mettre dans l'ordre qui avait été approximativement le sien à l'époque médiévale. Donc, il construit le tombeau de Napoléon III, remet la nef à son niveau, rétablit les tombeaux qui étaient dispersés un peu partout, et notamment dans la crypte. Il les remet là où ils sont aujourd'hui.
Dans le déambulatoire,
voilà.
Qui est un double déambulatoire quand même, qui
voilà,
est très
vaste.
Voilà,
et puis à la croisée du transept. Il entreprend d'autres travaux, c'est-à-dire qu'il défait toute une série de décors que Debray avait fait dans les chapelles absidiales pour retrouver les décors médiévaux. Ainsi se passe toute la seconde partie du Second Empire à essayer de retrouver une image archéologique.
Idéale.
Suivant
et puis, la théorie de Viollet-le-Duc.
Il a encore une idée qui lui tient à cœur, c'est de détruire ce chœur d'hiver qui se trouve au flanc sud de la basilique, qui est une chapelle néoclassique, et qui est maintenant en continuité avec la basilique, et c'est là que les chanoines se trouvent. Et Viollet-le-Duc n'a qu'une ambition, c'est de détruire ce bâtiment néoclassique, ce collage qui lui paraît monstrueux.
Oui, ça n'entre pas dans l'unité de style.
Voilà, il fait une fixation là-dessus. Il se trouve qu'à l'époque, le primicier du chapitre, c'est-à-dire le doyen du chapitre, mais on l'appelle primicier, est un personnage important, Monseigneur Marais, archevêque in partibus de Lépante, doyen de la faculté de théologie de la Sorbonne, et aussi quelqu'un qui a été proche des républicains pendant la Seconde République. Quelqu'un qui est un peu à gauche. Bon, il s'est rallié à l'Empire, comme tout le monde, parce qu'il a vu que le Second Empire durait. Donc. Mais après 1871, il se retrouve assez largement en phase.
C'est quand même un doyen de chapitre atypique.
Oui.
Surtout pour une nécropole royale.
C'est un gallican.
Ah oui.
C'est un des fondateurs du néo-gallicanisme. Il va faire une sorte d'alliance objective avec Viollet-le-Duc, qui va conduire à la démolition du chœur d'hiver et à la construction à la place d'une gigantesque chaufferie qui va permettre de chauffer le chapitre pendant les heures capitulaires. Et cette chaufferie, une énorme construction en briques, va obscurcir tout le flanc sud de la basilique jusque dans les années 1950-1960. Mmh. Et puis, après cela, après 1874, Viollet-le-Duc ne peut plus rien faire nulle part. Il considère qu'il est la victime d'une coalition cléricale et il démissionne.
De toutes ses fonctions.
Voilà, de toutes ses fonctions. Et en définitive, il ne se passe plus grand-chose à Saint-Denis jusqu'à la fin du siècle, hormis des problèmes de présentation de la crypte et des sarcophages, des gisants, à la visite. Alors là, ça va susciter de graves difficultés, car le chapitre décide de rendre l'accès à ces gisants, de rendre la visite payante. Et l'administration des cultes est d'accord, mais l'administration des beaux-arts est contre. Bien que le chapitre soit supprimé en 1885 à la suite des conflits entre le Parlement et l'Église, cette bagarre se poursuit, car la billetterie demeure. La billetterie sert à payer le chauffage, il faut dire.
Mais il n'y a plus de chanoines.
Il n'y a plus de chanoines.
Mais il y a quand même des fidèles. Quand même.
Oui, parce que l'administration des cultes a installé une paroisse à la place des chanoines. Alors que les beaux-arts auraient voulu convertir la basilique en musée de la sculpture française, et l'administration des cultes, considérant que c'était une idée parfaitement absurde, qu'on ne pouvait pas faire de ce bâtiment uniquement un musée, que ça allait le conduire à la ruine, voue l'édifice au culte paroissial. Donc le chauffage continue de s'imposer. Il faut payer le chauffage, ça coûte très cher dans ce gigantesque bâtiment. Donc on continue de fermer les yeux sur la billetterie.
L'accès payant.
Voilà. Et puis alors, tout au long du XXe siècle, on va avoir, pendant juste dans les années 50, des conflits à n'en plus finir sur ces questions-là. La présentation de la crypte à la visite, l'incapacité de l'administration des beaux-arts, plus de la direction de l'architecture, à gérer convenablement les lieux, l'impossibilité d'installer des animations. À un moment, le secrétaire d'État aux beaux-arts, Cornu, envisage d'installer un son et lumière dans la basilique, mais il est forcé d'y renoncer parce que tout le clergé parisien s'y oppose, à juste titre, parce qu'on lui a dit que ces équipements seraient provisoires, mais qu'ils allaient quand même durer toute la saison d'été. Il y avait de quoi se méfier. Il a fallu attendre les années 1970 pour qu'on commence à remettre à plat à peu près la question de la visite, le problème du guide, le problème du pourboire au guide, le problème de l'éclairage de la crypte et les problèmes d'horaire de la visite. Car comment peut-on faire visiter le chœur si, au même moment, se déroule un mariage.
Ou un enterrement.
Ou un enterrement. C'est surtout les mariages qui posent des problèmes. Parce qu'il y a plus de monde. Et à un moment, on envisage de reporter les mariages dans une chapelle latérale. Mais les gens de Saint-Denis disent non, si nous nous marions à la basilique, c'est pour nous marier.
Dans le cœur.
Dans le cœur. Et bon. Donc ces conflits ont duré très longtemps et grosso modo, ils ont duré jusqu'à ces dernières années. Ils se sont calmés, mais très probablement, ils reprendront un jour. La basilique est restée aujourd'hui, là aussi, une sorte de croisement.
Oui, alors il faut quand même préciser qu'elle a changé de statut puisqu'elle est devenue cathédrale au moment où on a créé les nouveaux départements. Ça a quand même été sans doute un moment important aussi dans la vie de ce monument.
Bien sûr, ça a redonné un tonus cultuel à l'édifice.
Oui, puisque maintenant il y a un évêque et à nouveau un chapitre.
Et avec un responsable qui a plus de poids que l'ancien curé.
Et oui, qui était bien le seul curé, vis-à-vis
Le curé de Saint-Denis a du poids, naturellement. On l'a vu il n'y a encore pas très longtemps, lorsque la basilique était occupée, et le père Berger. Mais dès lors qu'il y a un évêque, ça donne une dimension supplémentaire.
Supérieure, bien sûr. Oui.
Le problème, c'est qu'il reste encore toute une série de conflits potentiels. Hein. Le passage au chevet de la crypte, par exemple, qui n'est aujourd'hui pas possible. Le problème du dépôt lapidaire, qui est un bâtiment dans lequel sont entassés de façon sauvage
des éléments... Un très grand nombre de vestiges
extrêmement précieux.
Oui, qui sont précieux.
Il y a le petit bâtiment de l'agence de Debré qui date des années 1830 et dont on parle régulièrement de la destruction, alors qu'il faudrait le conserver. Oui. Il y a eu les travaux qui ont été faits ces dernières années au flanc nord et qui ont permis de retrouver l'ancienne rosace que Debré avait démonté, puis enterré. Il faudrait pouvoir peut-être faire un jour une présentation in situ Il y a ce serpent de mer aberrant de réaménagement du niveau du parvis dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc toutes ces questions reviennent de façon récurrente. Il y a des questions qui sont strictement d'ordre archéologique pour des archéologues entre eux, comme cette histoire de parvis. Il y a des questions de rapport politique entre l'État et la ville de Saint-Denis. Et il y a une question beaucoup plus large qui est la place de Saint-Denis dans la mémoire nationale.
Oui, qui est quand même un lieu, enfin c'est vraiment très important.
Mais quand il s'agit de mémoire de Saint-Denis, c'est la mémoire de tout Saint-Denis.
De tout Saint-Denis,
bon,
bien
j'avais
sûr.
J'avais écrit un jour, et les archéologues étaient furieux, que les archéologues étaient les alliés objectifs de la destruction de la mémoire, parce qu'ils ne visaient qu'à remettre en évidence les origines de Saint-Denis. Bon, à faire croire que Saint-Denis, c'était l'époque mérovingienne.
Oui, ça c'est un petit peu
c'est le problème
la caractéristique de ceux qui cherchent toujours les origines.
Voilà, mais il n'y a pas que les origines, il y a tout ce qui s'est passé au Moyen-Âge, tout ce qui s'est passé au temps moderne, et notamment au XVIIe, au XVIIIe siècle, qu'on connaît mal. Maintenant, le XIXe siècle est mieux connu, le XXe siècle aussi. Mais la mémoire de Saint-Denis, c'est tout cela.
Oui, mais c'est quand même l'histoire de la France.
On ne peut pas résumer l'histoire de la France à Arnégonde et à ses bijoux.
Non, c'est très intéressant, mais c'est
voilà.
Une étape, simplement.
C'est une étape, simplement.
Voilà, oui. Mais enfin, je pense que c'est vraiment très intéressant tout ce que vous nous avez apporté sur Saint-Denis. Pouvez-vous donner l'ouvrage dans lequel vous avez publié la majorité des données là que vous avez pu mettre au jour, parce que vous avez été pionnier dans ce domaine?
Alors, c'est un ouvrage qui est paru chez Gallimard en 1996, et qui a pour titre Saint-Denis de 1760 à nos jours.
Voilà, donc là, si les auditeurs de la radio veulent en savoir plus, eh bien, ils doivent lire cet ouvrage et puis également, naturellement, se rendre sur place parce que c'est un endroit vraiment très très beau et chargé d'histoire et très émouvant.
Merci.
Merci beaucoup, Monsieur Lugnaud.